Culture sans frontières, Anna Kubishta.
We the people, in order to form a more perfect union, 221 years ago, in a hall that still stands across the street.
Bonjour. Le 18 mars 2008, le futur président américain Barack Obama prononçait à Philadelphie un discours qui, sans le savoir, allait faire date. Le 18 mars 2009, c'est le comédien français Vincent Bird Le Sage qui récitait ce même texte dans la langue de Molière au théâtre Archa à Prague. Ce discours a été prononcé par Barack Obama en guise de démenti aux propos discriminatoires de son pasteur, le révérend Wright, qui avait déclenché la polémique en déclarant que les attentats du 11 septembre étaient, je cite, un signal d'alarme pour l'Amérique afin qu'elle se rende compte que les Arabes et les Noirs existent toujours. Le comédien Vincent Bird Le Sage présente un Barack Obama très crédible, même s'il dit ne pas avoir cherché à l'incarner. En tout cas, il devait y être prédestiné, métis, comme le président américain. Il est aussi né le même jour que lui, le 4 août 1961. Au départ de ce projet, c'est le metteur en scène José Plia qui lui avait proposé une lecture. Vincent Bird Le Sage nous raconte comment il a donc découvert ce discours fondateur, souvent comparé au fameux « I have a dream » de Martin Luther King.
J'ai été récupérer le texte, je l'ai lu, j'ai trouvé ça pas mal, sans plus. Et puis le jour de, on devait travailler ensemble pour répéter, pour le lire à voix haute, je me dis « bon quand même, je vais le lire à voix haute une fois, avant qu'on travaille ensemble pour me rendre compte ». Et au cours de cette lecture à voix haute, là, je me suis mis à pleurer. Alors, on s'est vu avec José, j'ai refait une lecture, j'ai repleuré, il a pleuré. On a fait une lecture devant son épouse, nous avons tous pleuré. Et là, on s'est dit, il y a quelque chose dans ce texte qui transcende vraiment la dimension politique, politicienne, même la dimension américaine, parce que ni José ni moi ne sommes américains, en tous les cas pas de nationalité, et ça nous parle beaucoup, ni sa femme non plus, donc... Ça transcendait et la couleur, et l'origine, et la nationalité. Et on touchait à l'universel.
Alors vous avez pleuré, vous dites que vous avez pleuré en lisant ce texte. Comment le public jusqu'à présent réagit?
En général, on fait un débat, enfin le mot est un peu fort, mais des échanges après le spectacle pour que les gens puissent dire ce qu'ils ont envie de dire sur ce qu'ils ont entendu et partager les choses les uns avec les autres. Il y a, je pense, dans l'ensemble, d'abord c'est un texte très doux, très bienveillant, et ce qui ressort dans les échanges, c'est cette bienveillance-là. Alors, il y a des gens que ça amène jusqu'aux larmes, il y a des gens que ça amène dans une profonde réflexion politique, et non pas au sens qui est élu où, mais qu'est-ce que c'est censé faire à notre société et à nous-mêmes, et qu'est-ce que c'est la politique pour nous. Je pense que ça réveille le citoyen chez chacun.
Pensez-vous que ce type de discours serait possible en France? Ça me semble, enfin, j'allais dire dit par une personne de la stature, par exemple, de Barack Obama, un homme politique. Ça me semble un peu ovni, j'allais dire, dans le discours général en France.
En fait, je pense qu'on a déjà eu un petit peu ou beaucoup certains politiques qui ont tenu ce type de propos, à savoir à un niveau philosophique, presque spirituel, sur le sens de leur travail d'organisation de la société, ce qui est le rôle des politiques. La difficulté qu'on a en France, c'est que ça reste au stade des paroles. La différence, sans doute, chez Barack Obama, c'est d'abord, c'est pas un petit bout qu'il y a eu, ça a été pratiquement redondant dans toute sa campagne, ce niveau de réflexion-là, par rapport à chaque problème. Une très très grande affirmation du « nous », et c'est ça la grande différence avec Martin Luther King, c'est-à-dire que c'est en ça que c'est une évolution de ce discours, c'est que Martin Luther King, c'est « j'ai fait un rêve pour ma communauté », et Obama, c'est « oui, nous pouvons ». Ça, c'est un truc très important, c'est-à-dire qu'il se met pas ni dans une position personnelle à part, ni en tant que leader, comme tentent d'en faire beaucoup les hommes politiques, « je vais résoudre vos problèmes ». Il dit, nous pouvons, si nous travaillons ensemble, résoudre nos problèmes.
En dehors de cette lecture dont vous parliez tout à l'heure, très émotionnelle, comment après avez-vous abordé l'interprétation de ce texte sur scène?
L'idée de José, que j'ai rejoint immédiatement dès le départ, c'était de ne pas chercher à copier Barack Obama, de ne pas chercher à refaire comme si on était à l'époque du discours, ce qui n'est pas le cas. Je ne suis pas américain, le public non plus. Nous ne sommes pas en mars 2008 et on n'est pas en campagne électorale. Donc très très vite, José m'a proposé de travailler dans la direction de quelque chose de simple où on restitue la parole. Et en fait, je pense que si on devait prendre un terme plus usité, nous sommes des porte-paroles. On porte cette parole-là. Donc on le fait de manière calme, sereine, sans emphase, simple, ouverte.
Est-ce que vous pourriez préciser ce qui vous a vraiment touché dans ce texte ? Alors déjà en tant que comédien peut-être, et en tant que personne tout simplement ?
Je crois que on a affaire à un texte qui, alors qu'il est au départ prononcé dans un discours politique, s'avère être un texte personnel, poétique et quasi messianique. Et on se fait emmener dans cette dimension beaucoup plus grande que celle qu'on pourrait attendre de la part d'un homme politique. Il nous y emmène très doucement en se servant de son expérience personnelle, en faisant partager les choses qu'il a vues et en faisant le lien entre l'expérience de chacun et l'histoire du monde. Et à un moment, cet aller-retour entre l'histoire de chacun et l'histoire du monde, et il parle à tous les chacun, puisque le propos était autour de la race, donc c'était entre les Noirs, les Blancs, les Asiatiques, les Latinos, les Hispaniques. Ce discours finit par parler à tout le monde et à chacun, et à la fois à un niveau personnel et au niveau de l'histoire.
Alors vous dites qu'il parle à chacun, je pense qu'il a beaucoup parlé aussi, qu'il a beaucoup parlé aux Français, mine de rien, puisque les Français, qu'on dit parfois anti-américains, se sont pas mal enthousiasmés, j'allais dire, pour cette campagne américaine. Est-ce que cet espoir qu'il a suscité hors des frontières, par ricochet également, je suppose, par rapport à l'ancienne administration Bush, qui était peu aimée, est-ce que cet espoir, vous l'avez aussi ?
À mon avis, la chose indéniable et importante, c'est que l'élection d'un homme de couleur intelligent et a priori compétent dans un pays démocratique qui était jusqu'à présent à dominante blanche est un événement historique. Et je pense que ça se suffit à lui-même. Après, est-ce que Obama est parfait ? Non. Même les Noirs sont imparfaits. Mauvaise nouvelle.
Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble possible dans les années à venir, en France par exemple, qui est également diverse, mais à quand, j'allais dire, c'est la question qui s'est posée après évidemment, à quand un Obama français ?
Il faudrait déjà qu'il y ait dans la politique des gens, des mélaniens, c'est-à-dire des gens qui ont de la mélanine, qui aient envie de se lancer vraiment. Il faudrait que les partis politiques aient envie que ça arrive. Il faut des concours de circonstances, et puis je pense qu'il ne faut pas comparer l'incomparable. La cohabitation entre noir, blanc, hispanique, rital et puis irlandais aux États-Unis, elle date du jour de la fondation du pays. C'est-à-dire qu'au jour où le pays a été fondé, il y avait déjà tout ce monde-là sur le territoire. La grande différence avec la France, c'est que la rencontre avec les populations de l'extérieur, qu'elles soient visibles au niveau de la couleur ou non, est très récente. Et une très grande partie des gens, des mélaniens de France, sont des gens dont l'histoire avec la France date, dans le meilleur des cas, d'il y a 200 ans. Et en général, quand c'était il y a 200 ou 300 ans, leur histoire était très très loin, enfin peut-être 400, mais leur histoire était très loin. C'est-à-dire, par exemple, l'histoire des Antilles, où il y a par exemple beaucoup de Français qui sont de toutes les couleurs de peau, c'est quand même à 7000 kilomètres. Donc le rapport avec la nation et le rapport de la nation avec les Mélaniens n'est pas du tout le même qu'aux États-Unis, où en fait cette république s'est construite, même malgré l'apartheid, avec toutes ces communautés-là, ensemble, tout le temps.
Donc, hormis ce spectacle, vous avez aussi une compagnie qui a un nom un peu particulier qui s'appelle les Amigrés. J'ai beaucoup aimé et j'aimerais que vous me précisiez un peu le concept.
Le concept, c'est, je pense, aubanien avant l'heure, si j'ose dire, puisque c'était il y a, oh là maintenant, ça commence à faire 6 ans qu'elle existe ou 7 ans, je sais plus. L'idée, c'était de dire que on a tous une appartenance multiple et on n'est ni immigré, ni émigré, mais on est amigré au sens où on est de toute façon le résultat d'une migration. Alors notre appartenance peut être génétique, elle peut être culturelle, elle peut être sexuelle, elle peut être politique. On a plein de doubles appartenances. Vous avez des bouddhistes qui aiment bien le Christ, des noirs qui sentent blanc, des blancs qui sentent noirs, des jaunes qui aiment bien la choucroute. Ça fait très très longtemps que dans la réalité quotidienne de la vie des gens, l'appartenance est multiple. Et ça fait une personne. La France est le résultat d'invasions des Huns, des Celtes, etc. On est tous de plusieurs origines. Et le concept d'amigré, c'était de reconnaître ça en chacun de nous, au-delà d'une éventuelle apparence.
Est-ce que votre spectacle sur Satan est produit justement par cette compagnie? C'est un autre projet que vous avez, dont vous nous rappellerez le titre d'ailleurs.
Oui. Alors, le Maître des Ténèbres est né à peu près de cette... De ce type d'idée, comme l'autre pièce que j'ai écrite aussi qui s'appelle « I had a dream », c'est-à-dire la phrase de Martin Luther King conjuguée au passé. En donnant la parole à Satan, dans le Maître des Ténèbres, ce qui m'intéressait, c'était de donner la parole à celui qui est exclu dans tous les cas de figure. C'est-à-dire que, bon, quelquefois le méchant c'est l'autre, quelquefois le méchant c'est le noir, quelquefois le méchant c'est le blanc, quelquefois le méchant c'est le jaune, mais ce sur quoi tout le monde est d'accord, c'est que le diable c'est le méchant pour tout le monde. Alors ce qui m'intéressait, c'était de donner la parole à celui qui était le spécialiste mondial et universel de l'exclusion. Et le Maître des Ténèbres, c'est ça. C'est la parole donnée à celui qu'on n'écoute jamais.
Et quelle est cette parole alors justement? Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il est content ou pas content finalement de cette étiquette qu'on lui colle? Il l'a bien cherché quand même.
Ah, c'est un très très long débat. Disons que quand le spectacle commence, il est très en colère. Et quand le spectacle se termine, il a beaucoup évolué. Et puis ce qu'il faut toujours se rappeler dans des personnages comme cela, c'est-à-dire que j'ai pris un diable extrêmement fidèle à la description qui en est faite dans les textes. C'est-à-dire que qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, le nom est cité dans des textes sacrés. Donc j'ai été prendre ce diable-là, pas un diable de fantaisie récupéré je sais pas où. Et il y a quand même une chose vachement intéressante, et c'est aussi de là dont je suis parti, c'est que pour prendre Jésus, par exemple, qui pour les chrétiens est l'incarnation de Dieu sur la terre, la première chose qui arrive à Jésus une fois qu'il a été baptisé, c'est que Dieu lui-même l'envoie dans le désert pour y rencontrer qui? Le diable. Et il y a une vraie question qui se pose. Pourquoi est-ce que j'enverrais, si j'étais Dieu, mon fils chéri, que j'ai eu tellement de mal à le faire, rencontrer la dernière des ordures si ça servait à rien?
C'était donc le comédien français Vincent Beurre de Le Sage qui était à Prague le 18 mars dernier et à Brno le 19 mars dans le cadre du festival Afrique en création. Merci de votre attention, merci de votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur internet au www.radio.cz. À bientôt, ahoy.